La vie n'est pas toujours un fleuve long et tranquille. Mais la vie est faite aussi de petits miracles, ici et là, petits et plus importants. Et je voudrais vous raconter une histoire vraie. L'histoire d'une famille espagnole. Maria Bellon, Enrique Alvarez et leurs trois enfants, Lucas, Simon et Thomas. Cette famille passait des vacances en Thaïlande en 2004. Et après quelques jours sur place, quelque chose de terrible arriva. Un tsunami meurtrier. Nous l'avons tous vu, je pense. Ce tsunami a déferlé sur plusieurs côtes, en Thaïlande, au Sri Lanka, en Indonésie, en Inde et dans d'autres pays, d'autres îles. La famille était en train de se détendre autour de la piscine de l'hôtel où ils logeaient. Et tout d'un coup, un grand bruit survenu, un vacarme qu'ils ne savaient pas définir, dont je n'avais jamais entendu ça. Et puis un mur d'eau, pas un mur translucide, clair, mais un mur noir, plein de débris, s'est abattu sur eux, sur l'hôtel, sur toutes ces régions de l'Asie, sur les occupants de l'hôtel. Et la famille s'est retrouvée séparée. Maria, la mère, a passé au moins 3 minutes sous l'eau à se débattre pour échapper à la mort. Et elle s'est finalement agrippée à un tronc d'arbre. Et elle a pu localiser un de ses fils. Elle a vu Lucas. Et elle l'a agrippé et ils sont restés agrippés tous les deux à ce tronc d'arbre. Et ils ont finalement été secourus par quelqu'un, par un homme local en Thaïlande. Lors d'une interview après cela, elle se confiait et disait que lorsqu'elle a retrouvé son fils, et son fils lui disait, s'agrippait à elle et lui disait, « Je suis content d'être avec toi, maman. Je suis content d'être avec toi. » Elle a dit que c'était le moment le plus émotionnel, le plus intense de sa vie. Le plus beau moment de sa vie, de retrouver son fils qu'elle pensait perdu. Dans ce moment de chaos. Son mari, Enrique, a lui aussi retrouvé ses deux fils, Simon et Thomas. Et contre toute attente, contre toute logique, toute la famille a survécu à ce terrible événement qui s'est passé en 2004. Et ils se sont retrouvés, pas tout de suite, pas le jour même, mais 2 jours plus tard, ils se sont retrouvés à l'hôpital où Maria était soignée pour ses blessures. C'est une histoire vraie. Et elle a inspiré un film que peut-être vous connaissez, The Impossible, L'Impossible. Un film avec Ewan McGregor et Naomi Watts, je pense. Je vous le conseille si vous n'avez pas vu le film. Ce n'est pas un film facile à voir, mais c'est un film prenant et émotionnellement intense. Et c'est une histoire inspirée d'une. C'est un film inspiré d'une histoire vraie. Il est estimé qu'au moins 230 000 personnes sont décédées lors de ce tsunami. La vie n'est pas toujours facile. Mais la vie, parfois, étant fragile, est faite de miracles. De petits miracles à gauche, à droite, de grands miracles. C'est un miracle qui est arrivé à cette famille. Pouvons-nous nous imaginer le bonheur de cette famille lorsqu'ils se sont revus, lorsqu'ils se sont retrouvés? Nous célébrons aujourd'hui le sabbat hebdomadaire. Et c'est aussi le troisième jour de la fête des pains sans levain. Et ce jour est vraiment spécial. C'est un saint sabbat, bien sûr. Mais en l'an 31 de notre ère, il y a près de 2000 ans, les jours tombaient au même moment que cette année. Jésus-Christ va être ressuscité le samedi soir vers la fin du sabbat. Ce soir, il y a un peu moins de 2000 ans. Pouvons-nous imaginer le bonheur, la joie que Dieu le Père et Jésus-Christ ont ressenti en se retrouvant? Jésus-Christ, Dieu la parole, était mort. Il n'était plus pendant 3 jours et 3 nuits. Mais après avoir été ressuscité vers la fin du sabbat, Jésus-Christ n'est pas monté directement vers son Père. Cela va prendre encore un jour de plus. C'est le jour d'après, après le sabbat, qu'il va rencontrer son Père à nouveau. Et c'est ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui lors de ce message. La retrouvaille entre Dieu le Père et Jésus-Christ. Cette rencontre, c'est en fait une cérémonie que l'on appelle la gerbe agitée. Et elle est décrite, comme nous allons le voir, dans l'Ancien Testament. Et lors de ce message, j'aimerais vraiment mettre l'accent sur la joie. La joie que cet événement procure, non seulement pour Dieu le Père et Jésus-Christ, qui se sont retrouvés, mais également pour nous, et ce que cela signifie pour nous. Et j'espère qu'à la fin de ce message, nous pourrons tous ressentir cette joie profonde que nous procure l'espoir de nous réunir avec notre Créateur, avec notre Père Céleste et Jésus-Christ. Cette joie profonde que nous procure l'espoir de revoir nos bien-aimés, peut-être nos disparus, peut-être nos parents, nos grands-parents. Voyons premièrement la relation qui était entre eux et qui est entre Dieu le Père et Jésus-Christ. Reportons-nous à Jean, s'il vous plaît. Jean 14, s'il vous plaît. Jean 14 et le verset 28. Jean 14 et le verset 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Jésus-Christ nous dit de nous réjouir de ce qu'il va au Père, si nous l'aimons. Réjouissons-nous de ce que Jésus-Christ est allé au Père, car en ce faisant, il a ouvert la voie pour beaucoup de frères et sœurs. C'est la raison pour laquelle nous devons nous réjouir. Remarquons également dans ce passage comment Jésus-Christ considère notre Père, plus grand que moi. Cela démontre sans aucun doute l'attitude d'humilité et de respect qui était profondément ancrée en Jésus-Christ. Allons à Jean 10, s'il vous plaît. Quelques pages auparavant, Jean le chapitre 10. Jean le chapitre 10. Et les versets 29 et 30. Jean 10, et les versets 29 et 30. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Encore une fois, nous voyons que Jésus-Christ, place Dieu le Père au centre de l'attention. Il est plus grand que moi, il est plus grand que tous, dans tout l'univers, tout ce qui a jamais existé. Et ensuite, Jésus-Christ nous dit que lui et le Père sont un. Ils sont en parfait accord. Ils sont parfaitement unis. Cela montre la relation intime, la relation profonde, la relation d'amour qu'ils partagent. Voyons ce qui se passe lorsque Jésus-Christ est sur le point de mourir sur le bois. Matthieu, s'il vous plaît. Rejoignez-moi à Matthieu. Matthieu, le chapitre 27. Matthieu, le chapitre 27, et les versets 45 et 46. Matthieu 27, les versets 45 et 46. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani ?» C'est-à-dire, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» À ce moment, Jésus-Christ souffre. Pas seulement physiquement, mais mentalement, émotionnellement. Il est séparé de son Père. Parce qu'il a pris sur lui tous nos péchés. Parce qu'il a pris sur lui la culpabilité des transgressions de toute l'humanité. Et il était séparé de son Père, de notre Père, pendant ces moments d'agonie, alors qu'ils étaient un. C'est le sacrifice que Jésus-Christ a fait pour nous. C'est le sacrifice que Dieu le Père a fait pour nous. Et après sa mort, Jésus-Christ est mis au tombeau, à la hâte, avant le début du sabbat, avant le début du premier jour des pains sans levain, le mercredi soir, avant le début du sabbat. Et vous pouvez voir ça dans Jean 19:31. Ne vous reportez pas, c'est simplement pour bien comprendre qu'il s'agissait bien du premier jour des pains sans levain, c'était un grand jour, ce n'était pas le sabbat hebdomadaire. Voyons maintenant ce qui se passe lors de la résurrection de Jésus-Christ. Rejoignez-moi à Jean, s'il vous plaît. Jean, le chapitre 20. Jean, le chapitre 1. Pardon, le chapitre 20 et les versets 1 et 2. Jean, le chapitre 20 et les versets 1 et 2. Et je cite. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » C'est donc le premier jour de la semaine, le jour après le sabbat, le dimanche dans nos calendriers modernes, tôt le matin. Et Jésus-Christ n'est déjà plus dans le tombeau. Il fait encore sombre. Le soleil n'est sans doute pas encore levé. Et il a déjà été ressuscité. Il a en fait été ressuscité depuis plusieurs heures. Il a en fait été ressuscité vers la fin du sabbat, le dernier jour de la semaine, pas le premier, le jour précédent. Ce qui fait précisément 3 jours et 3 nuits. Du mercredi soir au jeudi soir, première période de 24 heures. Du jeudi soir au vendredi soir, deuxième période de 24 heures. Et du vendredi soir au samedi soir, troisième période de 24 heures. 3 jours et 3 nuits complètes dans le tombeau. Dieu est précis. C'est le signe du prophète Jonas. Voyons un peu plus loin dans Jean 20, toujours Jean, le chapitre 20. Et nous allons lire les versets 11 à 15, et puis 16 et 17. Jean, le chapitre 20, nous y sommes, les versets 11 à 15. Cependant, donc les deux disciples sont repartis, cependant Marie se tenait dehors, près du sépulcre. et elle pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent verset 13, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » On voit que l'émotion monte dans le chef de Marie, et probablement de Jésus-Christ aussi. Verset 16, « Et Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni, c'est-à-dire maître. » Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Et je m'arrête là. « Ne me touche pas. » On peut s'imaginer l'émotion et la surprise dans la voix de Marie, « Rabouni. » Et ensuite Jésus-Christ précise, ne me touche pas. Elle voulait sans doute l'étreindre dans l'émotion. Mais elle ne pouvait pas. Jésus-Christ dit, je ne suis pas encore allé vers mon Père. Ne me touche pas. Et pourquoi cela? Pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas être touché? Qu'est-ce qui devait se passer? Parce que plus loin, dans l'histoire, la même journée, Jésus-Christ a pu être touché par ses disciples. Qu'est-ce qui s'est passé entre eux? Je veux juste, pour être bien clair, qu'on soit bien clair dans les Écritures, vous lire Jean 20, verset 19. C'est le même jour. Je vais faire un parallèle avec Luc 24. Je lis Jean 20, le verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, donc c'est le même jour, hein, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et je voudrais lire ce même rendu ici dans Luc, le chapitre 24, s'il vous plaît. Donc c'est le même moment qui est décrit ici, mais avec un peu plus de détails. Luc 24, les versets 36 à 39. Luc 24, les versets 36 à 39. Et c'est le même moment qui est décrit ici, mais avec plus de détails. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux, Jésus-Christ. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Nous venons de le lire. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Ils ne savaient pas ce qui se passait. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi. » Et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. À ce moment-là, Jésus-Christ dit à ses disciples, vous pouvez me toucher. La même journée, c'était en la soirée. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux rencontres? Eh bien, voyons ensemble une cérémonie qui a été ordonnée par Dieu aux Israélites dans l'Ancien Testament. Voyons sa signification et son accomplissement. Reportez-vous avec moi à Lévitique, s'il vous plaît. Lévitique 23. Lévitique, le chapitre 23. C'est dans ce chapitre que nous trouvons toutes les fêtes de l'Éternel, en commençant par le sabbat hebdomadaire, qui est une fête de l'Éternel. Mais on retrouve toutes les fêtes de l'Éternel ici, dans le chapitre 23. Et je vais lire les versets 9 à 11. Lévitique 23 et les versets 9 à 11. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre, le lendemain du sabbat. Ici, on trouve la cérémonie de la gerbe agitée, comme on l'appelle communément. Et cette cérémonie devait prendre place le lendemain du sabbat. Mais de quel sabbat parle-t-on? S'agit-il du sabbat du premier jour des pains sans levain, qui est un grand jour? S'agit-il du sabbat du dernier jour des pains sans levain, qui est un grand jour? Ou s'agit-il du sabbat hebdomadaire? Aujourd'hui. Le terme « le lendemain du sabbat » est ce que les linguistes appellent un « phrasème ». C'est une expression, une locution figée. Mais qu'est-ce que ça veut dire réellement? Dans le calendrier biblique, les jours de la semaine ne sont pas spécifiquement nommés, comme c'est le cas aujourd'hui. On ne parle pas de lundi, de mardi, de mercredi, de jeudi, vendredi, etc. Ils étaient énumérés en fonction du sabbat. La base pour les compter, c'était à partir du sabbat. Le lendemain du sabbat se réfère tout simplement au premier jour de la semaine, le dimanche. Si on parle du deuxième jour, après le sabbat, entre guillemets, c'est le lundi, le troisième jour, le mardi, etc., etc. Le lendemain du sabbat, en termes bibliques, est simplement un terme, un autre nom pour dimanche. La gerbe agitée devant prendre place le lendemain du sabbat hebdomadaire. Ça enlève toute confusion quand on comprend cela comme ceci. Voyons maintenant le lien qui existe entre Jésus-Christ et la gerbe agitée. Remarquons que dans Lévitique 23, verset 10, que nous venons de lire, la gerbe est composée de prémices. Prémices de votre moisson. Et cela devait être fait avant de pouvoir consommer les produits du pays, la moisson du pays. Reportons-nous à 1 Corinthiens chapitre 15, s'il vous plaît. 1 Corinthiens, le chapitre 15. Et je cite. « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. » Il est les prémices. Jésus-Christ est ici comparé aux prémices de ceux qui sont morts. Il est le premier de la moisson. Le reste de la moisson ne peut être récolté avant lui. Mais quel est le lien entre la gerbe agitée, prémices de la moisson dans l'ancien Israël, et Jésus-Christ, prémices de ceux qui sont morts? Que s'est-il passé le jour après le sabbat? Le dimanche après que Marie ait rencontré Jésus-Christ. Reportons-nous à Hébreux, s'il vous plaît. Hébreux, le chapitre 9. Hébreux, le chapitre 9 et les versets 11 et 12. Hébreux 9, les versets 11 et 12. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Voilà ce que Jésus-Christ a fait. Il s'est retrouvé avec son Père. Après en avoir été séparé, il a été présenté son propre corps, son sacrifice, son sang. Il s'est présenté comme le sacrifice ultime pouvant couvrir les péchés de toute l'humanité. Il est l'accomplissement parfait de cette gerbe agitée qui le préfigurait. C'est une cérémonie vraiment très importante, car elle ouvre la porte au reste de la moisson. Retournons à Lévitique 23, s'il vous plaît. Je vais lire le verset 14. Lévitique 23. Retournons à Lévitique 23 et le verset 14, s'il vous plaît. Un peu plus bas, juste après avoir lu ce que nous avons lu précédemment pour la gerbe agitée, verset 14. « Vous ne mangerez ni pain, ni épi rôti ou broyé, jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. » Donc cette gerbe agitée. « C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. » La moisson ne pouvait pas être récoltée, être consommée avant que cette gerbe agitée, que cette cérémonie soit accomplie. Lisons les versets 15 à 17 de Lévitique 23. Continuons. Les versets 15 à 17. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe qui sera agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Donc à partir de ce dimanche, lorsque Jésus-Christ est allé se présenter devant notre Père, nous devons compter 50 jours, 7 semaines complètes. Verset 16. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains, pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices de l'Éternel. Les prémices de l'Éternel. Ces versets sont excessivement importants. À partir du lendemain du sabbat, le jour où la gerbe est agitée, nous devons compter 50 jours, 7 semaines complètes. Ce qui nous amène où? Ce qui nous amène à quelle fête? La fête des semaines, la fête de la récolte, la Pentecôte. Et que signifie la Pentecôte? Quelle est la signification de cette fête? Ah oui, la venue du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Tous ceux qui se repentent, qui sont baptisés, qui reçoivent l'imposition des mains, ils peuvent recevoir maintenant, nous pouvons recevoir le don du Saint-Esprit. Vous voyez, sans cette gerbe agitée, si Jésus-Christ ne se présente pas devant Dieu le lendemain du sabbat, nous ne pourrions pas être engendrés de Dieu. Le plan de Dieu ne s'accomplirait pas. C'est une étape excessivement importante. Mais comme l'apôtre Paul l'a dit dans Romains, grâce soit rendue à Dieu, parce que Jésus-Christ nous a délivrés de ce corps de mort. Rejoignez-moi à Romains, le chapitre 5 et le verset 10, s'il vous plaît. Romains, nous parlions de Romains. Allons à Romains, le chapitre 5. Et le verset 10, s'il vous plaît. Romains 5 et le verset 10. Romains, le chapitre 5 et le verset 10. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? Nous lisons ici que nous sommes réconciliés par le sacrifice de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes justifiés par son sang, par sa mort. Mais nous sommes sauvés par sa vie, parce qu'il a été ressuscité d'entre les morts, parce qu'il s'est présenté devant Dieu le Père avec son sang versé. Il a ouvert la voie pour accéder à notre Père. C'est merveilleux quand on y pense. Le plan de Dieu est tellement précis et magnifique. La gerbe agitée dans l'Ancien Testament était un précurseur, une étape obligatoire, afin de pouvoir offrir une autre offrande 50 jours plus tard. Relisons Lévitique 23, verset 17. Retournons dans Lévitique, s'il vous plaît. J'aurais dû vous dire de rester, d'avoir un marque-page. Désolé. Lévitique 23, le verset 17. Lévitique 23 et le verset 17. Vous apporterez de vos demeures deux pains, pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2/10 de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices de l'Éternel. Donc nous voyons que deux pains doivent être apportés lors de cette fête de Pentecôte. Et lorsqu'on regarde les ingrédients qui sont décrits ici, c'est intéressant de voir qu'ils sont faits avec du levain. Ce ne sont pas des pains sans levain. Ces deux pains, ils sont faits avec du levain. Nous venons de le lire. Et que symbolise le levain ? Bien, le péché, bien sûr. Est-ce que cette fête signifie sortir du péché ? Et d'autres choses d'ailleurs, nous verrons ça dans quelques instants. Que symbolisent ces deux pains ? Nous avons lu que ce sont les prémices de l'Éternel. Les prémices de l'Éternel. Qui sont les prémices de l'Éternel ? Rejoignez-moi à Apocalypse, s'il vous plaît. Apocalypse, le chapitre 14. Laissons la Bible nous répondre. Apocalypse 14, verset 4. Apocalypse, le chapitre 14 et le verset 4. Apocalypse, le chapitre 14 et le verset 4. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. C'est l'Église ressuscitée, bien sûr. Ceux qui vont prennent part à la première résurrection. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Pour l'agneau. Les prémices sont les membres de l'Église de Dieu. Tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit après s'être repentis, avoir été baptisés, avoir reçu l'imposition des mains. Tous ceux qui persévéreront jusqu'à la fin. Ce sont les prémices que nous pouvons voir dans Apocalypse 14. Ces deux pains que nous avons lus, dont nous avons lu le compte-rendu dans Lévitique 23, nous représentent. Et ils sont faits avec du levain. Et cela nous montre que nous ne sommes pas parfaits. Nous avons besoin de Jésus-Christ qui ouvre la voie pour nous. Nous avons besoin de Jésus-Christ qui nous purifie. Nous tendons tous nos efforts pour être parfaits. C'est ce dont Raphaël a parlé dans sa sermonnette il y a 2 jours. Et cela nous montre que nous ne pouvons entrer dans le royaume de Dieu de par nous-mêmes, par nos propres actions. C'est Jésus-Christ qui nous permet d'entrer dans son royaume en accomplissant cette gerbe agitée, parfaite, sans péché. Jean 14, s'il vous plaît. Jean 14. Jean, le chapitre 14 et le verset 6. Jean, le chapitre 14 et le verset 6. C'est un verset que nous connaissons sans doute tous bien. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » La seule manière dont nous pouvons approcher Dieu, la seule manière dont nous pouvons entrer dans le royaume de Dieu, c'est par Jésus-Christ, par son intermédiaire, par sa mort qui nous justifie et par sa vie. Par sa vie, nous sommes sauvés. Rejoignez-moi à Jean, s'il vous plaît. Nous sommes déjà dans Jean, mais le chapitre 6. Jean, le chapitre 6, et les versets 31 à 35. Jean, le chapitre 6, les versets 31 à 35. Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jésus-Christ est le pain de vie. Nous devons le laisser vivre sa vie en nous. Et pendant cette fête des pains sans levain, Dieu nous commande de nous débarrasser du levain. Mais c'est quelque chose que nous faisons pendant la fête ou avant la fête? Question intéressante. On se débarrasse du levain avant la fête ou après la fête? Avant la fête, bien sûr. Avant la fête. Et on continue spirituellement pendant la fête, parce qu'on sait qu'on a toujours quelques miettes qu'on retrouve ici et là, pendant la fête. On retrouve ça en nous, évidemment. Et on s'en débarrasse quand on le voit. Mais principalement, nous devons nous défaire du levain avant la fête. Que doit-on faire pendant la fête? Retournons à Lévitique. Lévitique 23. Lévitique 23. Parfois, on peut perdre ça de vue. Et c'est important. Lévitique 23, verset 6. Ce n'est pas seulement de s'abstenir de levain que nous devons faire. Lévitique 23 et le verset 6. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Ici, on voit que l'accent est mis sur le fait de manger des pains sans levain. Pas seulement de s'abstenir de levain, mais de manger du pain sans levain pendant 7 jours, tous les jours. Parce que ce pain sans levain représente en quelque sorte le pain de vie. Il représente Jésus-Christ vivant sa vie en nous si nous le laissons faire, si nous choisissons de le faire. Reportons-nous à Romains, s'il vous plaît. Romains 13. Romains, le chapitre 13 et le verset 14. Romains, le chapitre 13 et le verset 14. Romains 13, 14, et je cite. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Ici, l'analogie n'est pas de manger le pain, de manger le pain de vie, mais de se revêtir de Jésus-Christ. De remplacer ce levain qui symbolise le péché et de mettre Jésus-Christ en nous, de revêtir de lui, de tout ce qu'il faisait, pour qu'il nous guide. C'est un aspect tellement important de la fête des pains sans levain. Vous savez, on ne peut pas juste rester vide. Ok, on vide ses maisons du levain, on se vide du levain spirituel, et on reste vide, et qu'est-ce qui se passe si on reste vide? Ça ne va pas rester vide longtemps. Donc on doit remplacer ce qui est mauvais par ce qui est bien, par Jésus-Christ en nous, pour qu'il puisse vivre sa vie en nous. Allons à Galates, s'il vous plaît. Galates. Galates, le chapitre 2. Galates, le chapitre 2 et le verset 20. Galates, le chapitre 2 et le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. En mangeant du pain sans levain tous les jours, nous prenons symboliquement Jésus-Christ en nous. C'est un symbole, mais c'est important. Et ce qui est plus important encore, c'est de le faire spirituellement. De laisser Jésus-Christ vivre sa vie en nous. Avant de conclure, j'aimerais lire un passage dans Josué. Josué, s'il vous plaît. Retournons dans l'Ancien Testament. Josué, pardon, le chapitre 5, et les versets 9 à 12. Josué, le chapitre 5, et les versets 9 à 12. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte, et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal. » Et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti, et ils en mangèrent ce même jour. Verset 12. La manne cessa le lendemain de la Pâque. Quand ils mangèrent du blé du pays, les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se passe ici. Après 40 ans, Dieu cessa d'envoyer la manne comme nourriture aux enfants d'Israël. Vous voyez, la gerbe avait été agitée. Parce que si la gerbe n'avait pas été agitée, ils n'auraient pas pu manger du produit du pays. Ça devait se passer premièrement. Nous l'avons lu dans Lévitique 23, le verset 14. La manne s'arrête et c'est la confirmation venant de Dieu que l'offrande a été faite. Les enfants d'Israël peuvent manger du fruit du pays, de la terre promise. Ils n'avaient plus besoin de manne. De même, Jésus-Christ s'est offert lui-même, accomplissant l'intention de cette offrande. Il est maintenant le vrai pain de vie, la vraie nourriture dont nous avons besoin. En conclusion, frères et sœurs, cette famille qui a été séparée par ce cataclysme en Thaïlande, par ce tsunami, qui s'est déroulée en Asie en 2004, elle s'est retrouvée. Et cette réunion a provoqué une joie indescriptible, une explosion de joie. Ils se pensaient perdus, ils ne pensaient plus se revoir. C'était le chaos autour d'eux. Et ce chaos a provoqué tant de pertes pour d'autres familles. C'est pour cela que nous demandons à notre Père Céleste que son règne vienne. Il y a tant de souffrances dans le monde. Mais il y a aussi quelques miracles qui arrivent, ici et là. Quelle image forte pour cette famille, quel miracle pour cette famille. Cette année, la Pâque, le premier jour des pains sans levain, la gerbe agitée, se déroule les mêmes jours que l'année où Jésus-Christ a été crucifié et ressuscité. Lors du sabbat hebdomadaire, Jésus-Christ a été ressuscité vers la fin du sabbat. Et le jour après le sabbat, ce que nous appelons le dimanche, Jésus-Christ est monté aux cieux pour se présenter au Père et accomplir la cérémonie de la gerbe agitée. Quelle joie ils ont dû ressentir de se retrouver. Quand on pense que Jésus-Christ, Dieu la parole, est venu en tant que cellule pour commencer dans le corps de Marie. Et il est mort et il a été séparé complètement de Dieu pendant 3 jours et 3 mois et 3 nuits. Quelle joie ils ont dû ressentir. Quelle joie sera la nôtre lorsque nous les rencontrerons. Reportons-nous à 1 Thessaloniciens, s'il vous plaît. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4. Et les versets 14 à 17. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4 et les versets 14 à 17. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Quel espoir, quel réconfort ces versets nous apportent. L'espoir de rencontrer notre Sauveur Jésus-Christ, de rencontrer notre Père Céleste, l'espoir de retrouver nos bien-aimés, de nous serrer les uns contre les autres, de nous étreindre. Et ce ne sera pas seulement à ce moment-là, c'est la première résurrection. Mais nous savons qu'il y a une autre résurrection, un espoir pour toute l'humanité. Et quel espoir ! Tout cela a été rendu possible parce que notre Sauveur Jésus-Christ a donné sa vie pour nous tous, pour toute l'humanité. Et parce qu'il a été ressuscité, parce qu'il a présenté son sang devant le trône de grâce. Le plan de Dieu est vraiment magnifique. Pensons à cela pendant cette fête des pains sans levain et encourageons-nous dans l'unité avec ces paroles.